le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 octobre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le pass sanitaire sera-t-il prolongé au-delà de la présidentielle jusqu'à l'été? Débat houleux en vue ce soir à l'Assemblée nationale et jusque dans les rangs de la majorité, on va le voir, Anaïs, après les autres titres.
Un couple d'enseignants de Marseille menacé de mort par courrier un an après l'assassinat de Samuel Paty, enquête ouverte, mesures de protection mises en place. Jour historique pour Paris, pour la première fois ce matin, des agents de la police municipale vont patrouiller dans les rues de la capitale. Et puis des musiciens passant de la viole de gambe à la batterie. Mariage réussi de la musique baroque et du jazz en fin de journal.
Invité d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
C'est l'histoire d'une ascension française, d'une jeunesse française et c'est aussi une belle histoire d'amitié. Voilà ce qu'on peut voir dans le documentaire très réussi sur le rappeur Orelsan, réalisé par son frère. Ça s'appelle « Montre jamais ça à personne ». On les reçoit tous les deux à 7h50 et on est content.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale Léa avec le garde des Sceaux et ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Il dialoguera avec vous. Vos appels au standard dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Y aurait-il des premiers signes d'un rebond de l'épidémie de Covid en France? Bien trop tôt pour le dire, mais les épidémiologistes regardent avec attention le taux d'incidence augmenté ces derniers jours, même si l'immense majorité des départements est encore sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. Alors faut-il, oui ou non, prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet? Les députés se penchent sur la question en fin de journée avec ce projet de loi dit de vigilance sanitaire. 380 amendements déposés, débat sans doute tendu. Et dans l'hémicycle, la majorité va devoir garder ses troupes à l'œil. Maxence Lambrecq, certains voudraient voir disparaître le pass là où l'épidémie faiblit.
La grogne anti-pass gagne peu à peu la Macronie.
On devrait déjà arrêter le pass sanitaire.
Le député de Paris de La République En Marche, Pacôme Rupin, critique cet été, devient virulent cet automne.
Comment pouvons-nous laisser durablement près de 7 millions de nos concitoyens à l'écart de lieux de vie du quotidien?
À défaut de s'en débarrasser partout, il propose de l'interdire dans les départements où le taux d'incidence reste inférieur à 50 pendant au moins une semaine. Cela concernerait aujourd'hui 80% du pays.
Territorialisons-le quand il y a des reprises épidémiques, mais sinon, c'est un outil dangereux pour nos libertés. Et nous étions tous d'accord pour le dire il y a encore quelques mois. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on n'essaye pas de le cadrer. Il n'est pas cadré, là.
Le cadre qu'il propose a plu aux oppositions.
Je vous demande de voter. J'ai 7 contre. Et pour, j'ai combien?
La présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, a elle-même vendredi 5, été surprise par
6,
le résultat.
7, 8.
Amendement adopté, mais il sera retoqué dans l'hémicycle, prévient déjà Matignon. Cette territorialisation serait beaucoup trop stricte. Il faut prendre en compte les dynamiques, les taux de vaccination, l'occupation des hôpitaux. Le ministère de la Santé cherche en ce moment la bonne formule. Elle ne sera dans tous les cas pas inscrite dans la loi pour rester flexible. Et rien n'évoluera avant la mi-novembre.
De l'autre côté de la Manche, en revanche, on n'a pas même plus ce débat depuis que le gouvernement a levé toutes les restrictions l'été dernier. Et aujourd'hui, taux d'incidence de 410 cas pour 100 000 habitants, 10 fois plus qu'en France. Plus de 100 décès quotidiens et des Anglais qui vivent comme si de rien n'était. Le reportage à Londres de Laura Calmus.
La gare de Saint-Pancras est très fréquentée en cette fin d'après-midi. Des va-et-vient, des files d'attente et des trains parfois complets. Et pourtant, le masque qui n'est plus obligatoire est très peu porté. Un triste constat pour Graham Anderson, qui a l'habitude de voyager un peu partout en Europe.
Je suis vraiment impressionné de voir que les gens s'en fichent. Ils ne portent pas de masque, même dans des endroits bondés comme ici.
Aidan et Alex sont étudiants à Londres et pour eux, vivre dans une ville sans gestes barrières ni passe sanitaire est un véritable soulagement.
Je suis content de ne plus avoir aucune restriction. Je suis content de voir que la vie a repris exactement comme avant.
Et même si le nombre de cas explose, plus de 49 000 personnes ont été testées positives hier. Ils ne veulent surtout pas voir de changement.
Je ne fais pas attention au nombre de cas, je suis doublement vacciné, mes amis aussi, alors pour le nombre de cas, ce n'est vraiment pas un problème.
Pourtant, l'efficacité des vaccins pourrait se dissiper avec le temps. Les Britanniques ont commencé leur campagne de vaccination plus tôt que le reste de l'Europe. Et résultat, selon certains experts, une troisième dose devrait d'ores et déjà être proposée à l'ensemble de la population. Londres, Laura Kalmus, France Inter.
Des Britanniques massivement vaccinés avec AstraZeneca. En Russie, 32% à peine de la population est entièrement vaccinée. Saint-Pétersbourg se résout à mettre en place progressivement un pass sanitaire à partir du 1er novembre. La Russie est actuellement le pays européen le plus touché alors que le Kremlin, soucieux de préserver l'économie, se refuse à tout confinement national. En France, face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement envisage un chèque carburant, piste évoquée hier par les ministres, plutôt qu'une baisse des taxes. Le modèle serait donc celui du chèque énergie, qui est calculé en fonction du revenu. Mais pour ce chèque carburant, il reste du travail à faire pour le mettre au point, prévient le ministre de l'économie. Et ce n'est pas si simple, Maxime Debs.
Attention surtout à ne pas perdre l'essence même du projet, pour que les bonnes personnes, celles les plus impactées, puissent trouver demain ce chèque dans leur boîte aux lettres. Encore faut-il bien les identifier. Pour les recenser, correctement les cibler, on peut imaginer bien sûr passer par les employeurs, les agences d'intérim, égrène un conseiller à Matignon. Tout ça, c'est très bien, mais comment être certain qu'on n'oublie personne en chemin? Comment être sûr que l'aide ménagère, l'infirmière qui fait chaque jour sa tournée, verra ce chèque lui arriver entre les mains? Les données relatives aux revenus fiscaux pourraient servir de base, mais tous les Français n'ont pas de voiture et ceux qui en ont une ne la prennent pas tous pour aller travailler. Peut-on se risquer aussi à subventionner des automobilistes qui ont d'autres moyens de se rendre sur leur lieu de travail? Lancé la semaine dernière, l'idée de ce chèque carburant, on le voit bien, se révèle bien complexe à mettre en œuvre pour Matignon, qui sait toutefois l'importance d'aller vite sur le sujet. Car pendant qu'on réfléchit, c'est un plein voire deux que les Français font chaque semaine, lance bien conscient un conseiller au gouvernement.
Et le bouclier sur le prix de l'électricité, lui, entraînera 5 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales, selon le ministre des Comptes publics. En Guyane, les 30 stations-service de la région ont été fermées sur ordre de la préfecture pour éviter une pénurie de carburant. Depuis que les antipasses ont bloqué deux dépôts hier, elles rouvriront demain avec 10 litres maximum par véhicule. Un fonds d'investissement chinois pour sauver 400 emplois dans l'Eure. Plan de reprise de Manoir Industrie à Pitre validé malgré les doutes de la justice qui s'interroge sur le respect des engagements de financement du chinois CAM-SPC. Mais il n'y a pas d'alternative selon le procureur.
Il est 7h07. Un couple d'enseignants de l'académie d'Aix-Marseille menacé de mort.
D'abord une photo de Samuel Paty reçue par courrier. Puis le jour anniversaire de son assassinat, une nouvelle lettre de menace. De menaces de mort cette fois. Enquête ouverte par le parquet de Marseille. Rien pour l'instant ne permet de relier ces faits à un cours donné par l'un de ses enseignants, ni même que le couple ait été visé en raison de sa profession. Écoutez Sophie Vénétité du syndicat SNES FSU, elle est abasourdie.
C'est une forme de choc parce que ça ravive quand même des souvenirs très douloureux. Là, nous, les informations qu'on a, c'est qu'il y a eu une forme de réactivité de la part de l'éducation nationale avec très rapidement des échanges qui ont lieu avec les collègues et des propositions qui ont été faites, des formes de protection qui ont été aussi proposées. Et puis, on sait aussi qu'il y a une enquête en cours, donc ça veut dire qu'il y a eu aussi une réaction du côté de la justice et de la police. Donc, il semble que les choses soient aujourd'hui plutôt bien prises en main, mais il faut absolument que ça se fasse sur la durée et que très rapidement, les auteurs de ces menaces soient arrêtés et que nos collègues puissent retrouver une réelle sérénité dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle.
Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES FSU. 150 000 postes supprimés dans l'administration lors du prochain quinquennat. L'objectif de Valérie Pécresse en campagne pour le Congrès des Républicains, atteindre 45 milliards d'euros d'économies auxquels s'ajoutent 15 milliards d'euros de recettes de privatisation. C'est ce que promet Valérie Pécresse. C'est le retour de la méthode RGPP. Les coupes sombres sans l'efficacité, lui répond la ministre de la fonction publique. Les effectifs de fonctionnaires sont restés stables durant ces 5 dernières années. Eux sont bel et bien sur le terrain dès ce matin, les 154 agents de la police municipale parisienne, pour la plupart issus des services de sécurité de la ville. Première promo historique présentée hier sur le parvis de la mairie, nouvel uniforme bleu marine Faustine Calmel et nouvelles prérogatives.
Police municipale inscrit en blanc dans son dos, Christian arbore son nouvel uniforme bleu marine avec bonheur.
Quand vous imaginez que vous faisiez ça, et qu'aujourd'hui, l'appellation est enfin arrivée, c'est plus qu'une émotion. C'est une grande fierté. Moi, j'ai 18 ans de boîte. À force d'y croire, c'est finalement arrivé.
Une reconnaissance du travail accompli comme agent de surveillance pour veiller au bon stationnement dans les rues de la capitale. À cette tâche s'ajoute désormais la verbalisation des nuisances sonores, jets de mégots, dépôts sauvages. Pour améliorer le quotidien des Parisiens, explique celui qui se voit comme un policier de proximité.
On sait comment aborder les choses, on sait comment éviter l'embrasement. Voilà, c'est une habitude qu'on a.
Même si le port de l'uniforme de policier est aussi un danger.
Les gens ne font pas trop la différence. Déjà, même quand il y a eu malheureusement les actes terroristes, les terroristes n'ont pas choisi.
Référence à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale de Montrouge, abattue par Hamedi Koulibaly en 2015. Et si Christian ne dit pas sa crainte, elle est présente chez les proches de ses policiers, comme ce jeune homme dont la mère fait partie de la nouvelle promotion non armée.
En cas d'attaque terroriste, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Très honnêtement, avec un tonfa et une gazeuse, on se cache. Il n'y a pas d'autre chose à faire.
Le port d'une arme létale, pistolet, n'est pour l'instant pas envisagé, mais les agents seront équipés d'un gilet pare-balles.
Et les verbalisations n'interviendront qu'en novembre. À l'étranger, au Liban, le spectre de la guerre civile gagne les esprits après les affrontements meurtriers de la semaine dernière. Menace hier soir du chef du Hezbollah qui affirme disposer de 100 000 hommes et met en garde le parti chrétien des forces libanaises. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. À Strasbourg, c'est dans l'hémicycle du Parlement européen que le Premier ministre polonais va affronter ses partenaires européens. Il s'exprimera à sa demande ce matin. Le 7 octobre dernier, l'arrêt historique du tribunal constitutionnel polonais avait provoqué un coup de tonnerre en contestant la primauté du droit européen. La Ligue des Champions et le PSG qui peut conforter ce soir sa première place dans le groupe A. Les footballeurs privés de Neymar et Di Maria compteront sur Messi et Mbappé pour battre Leipzig 21h au Parc des Princes. Un peu de douceur ce matin et la chaleur de la voix d'Hélène Giaconet qui marie dans ce premier album musique baroque et jazz. I put a spell on you, Stéphane Capron, abat en effet les frontières musicales.
Hélène Giaconet a fondé son quintet en 2018 avec l'idée de mélanger les styles, de créer des passerelles entre plusieurs genres musicaux. Sa voix éclatante fait le lien entre les chansons de l'époque élisabéthaine et les nouvelles compositions signées Serge Dan Berdovitch.
On a essayé de choisir des compositeurs emblématiques du baroque. Et ensuite, on a pris des standards de jazz vraiment très connus. Cry Me a River, My Favorite Things, plutôt dans l'extrait de la comédie musicale. Et on a voulu leur donner vraiment un twist un peu différent, sachant que c'est des standards, donc ils ont déjà été pris, repris, rejoués. Et là, on veut apporter un peu quelque chose d'autre, et notamment sur It's Oh So Quiet. On s'est basé quand même considérablement sur les versions qui ont pu être faites, notamment celle de Björk, mais avec cette instrumentation très différente et aussi sur la voix, en apportant quelque chose de plus lyrique parfois, ça donne une dimension très différente à ce à quoi on est habitué.
Les musiciens du quintet passent de la viole de gambe à la batterie, du cornet muet à la basse électrique, dans un fondu enchaîné harmonieux, rehaussé par la voix chaleureuse d'Hélène Giaconet.
Hélène Giaconet, le quintet Body and Soul consort sur le label Les Belles Écouteuses.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le zoom à La Palma, un mois sous la lave.